Si, avec Luciala, C-I-A-L-A.
Collectif interculturel d'auteurs de Loire-Atlantique.
Rencontrer un auteur, ça vous dit ?
Alors, retrouvez-nous le deuxième mercredi du mois à 17h30 sur Jet FM 91.2.
Et en podcast sur jetfm.asso.fr.
Bonjour André.
Bonjour.
Bonjour Martine.
Bonjour.
Et bonjour Daniel Bercheux.
Bonjour à vous trois.
Écrit d'ici, l'émission qui donne la parole aux auteurs, reçoit aujourd'hui Daniel Bercheux. Tout d'abord, merci Daniel d'avoir répondu à notre invitation. Nous allons ensemble échanger autour de ton livre « Un amour infini », paru aux éditions du Mérite en novembre 2018. C'est pour toi un premier roman. Pour commencer notre échange, pourrais-tu nous dire en quelques mots, nous parler de ce retour à l'écriture, car nous avons cru comprendre qu'il s'agissait en fait d'une passion ancienne, mise entre parenthèses pendant ta carrière professionnelle.
Alors, la passion ancienne, c'était pas exactement la littérature, c'était plutôt la comédie. Je voulais être acteur. Et parallèlement à mon métier d'acteur que je voulais faire, j'ai poursuivi une licence de lettres à la Sorbonne Nouvelle, à Sancier, et je faisais les deux, quoi, en fait. Et c'est vrai que j'avais l'idée d'écrire dans ma tête, mais j'avais peu écrit jusqu'à ma retraite. Et c'est là que j'ai commencé la grande aventure de la littérature.
Alors, dans Un amour infini, nous faisons la connaissance de Mélanie, Étienne et leurs deux enfants. Étienne est professeur. Mélanie a choisi de se consacrer à sa famille. Néanmoins, elle écrit quelques articles pour un journal. Le livre démarre par la description d'un accident de voiture. C'est Étienne qui rejoignait sa petite famille sur le lieu de leurs vacances. À partir de là, le couple se désagrège très rapidement. La reconstruction de chacun sera longue, douloureuse, mais bienfaitrice.
Monsieur, vous m'entendez ? Si oui, pincez la peau de mon bras ou clignez des yeux. Je suis médecin urgentiste. Vous venez d'avoir un accident. Je vais vous donner les premiers soins avant votre transfert à l'hôpital. À peine eut-il esquissé un geste de la main qu'Étienne tomba dans le coma. Il ne put réagir ni à la pose de la perfusion, ni au bruit strident du lapidaire qui broyait les montants des portes de la carcasse disloquée. Au bout d'une heure, les pompiers réussirent à l'extirper de son véhicule. Patricia, l'urgentiste, pour connaître son identité, fouilla les poches de sa veste. Dans son carnet d'adresse, elle trouva le numéro de téléphone de sa femme. Elle l'appela. « Bonjour, vous êtes bien la femme d'Étienne Métayer ?»« Oui, c'est bien moi, que se passe-t-il »« Madame, votre mari vient d'avoir un accident, sa voiture a percuté un platane, il a perdu connaissance. Nous le transportons en ce moment à l'hôpital, il devrait être opéré dès son admission. Il est trop tôt pour vous en dire plus. » Il est dans le coma. On vous téléphonera demain. On sera davantage fixé sur son état réel. Mélanie accusa le coup. Après avoir raccroché, elle s'effondra dans le fauteuil en cuir du salon. Elle se demandait si Étienne allait se réveiller et dans quel état physique serait-il. La tension qu'elle subissait retomba, elle se laissa alors surprendre par le sommeil jusqu'au petit matin, quand la sonnerie du portable la réveilla en sursaut. « Allô, oui, qui est à l'appareil ?»« Le chirurgien du CHU. Je viens d'opérer votre mari, Madame Métayer. L'intervention a duré 6 heures. Votre mari est stabilisé. Nous le maintenons dans un coma artificiel. » Le choc violent a laissé des traces visibles comme les fractures, mais mon inquiétude se porte sur les hématomes crâniens qui peuvent avoir des conséquences ultérieures difficiles à diagnostiquer. Il faut attendre qu'il récupère et seulement là, on pourra constater les effets sur son organisme. Mélanie ne savait plus quoi penser de sa situation. Elle était dans un état second, elle ferma les yeux. « Je ne veux pas qu'il meure, mais je refuse qu'il soit handicapé à vie, qu'il perde son autonomie et que je sois obligé de le soigner ad vitam aeternam. » Elle allait inexorablement vers sa nouvelle vie, en laissant derrière elle un passé heureux avec Étienne, son premier et seul amour. Désormais, plus rien ne serait comme avant.
Merci André. Donc l'union d'Étienne et Mélanie semblait solide. Elle est complètement ébranlée dans ses fondements. Il m'a semblé que Mélanie ne supporte pas l'état de son mari après l'accident. Elle projette le pire, en fait.
Oui, c'est ça. Mais elle se pose des questions par rapport au choc et au choc terrible que vient d'avoir son mari. Mais c'est plutôt lui qui va déclencher la crise au sein du couple. C'est le fait qu'il soit complètement en dehors de sa vie sociale. Il est professeur, il a une vie sociale, comme je le dis. Il est prof d'économie dans un grand lycée. Il vit pour ça aussi. Ils sont heureux et il va devenir complètement acariâtre. Et donc Mélanie résiste, elle veut le voir guérir, si je puis dire, mais c'est lui qui met à mal son couple.
Alors André, tu vas nous lire un deuxième extrait.
Mélanie devait faire face à une terrible réalité. Étienne n'était plus le même depuis son accident. Il avait changé de caractère. Son impulsivité, son impatience rendaient difficile la vie autour de lui. Il n'avait pas retrouvé toutes ses facultés mentales. Des pans entiers de sa vie s'étaient envolés. Où était-il né ? Avait-il des frères et sœurs ? Quels étaient ses amis ? Les traits de ses parents s'étaient volatilisés. Avant ses 20 ans, il n'avait plus de souvenirs. La page blanche, le néant, le vide. Au début de sa convalescence, il tentait de cacher ses troubles de mémoire, prétextant qu'il était fatigué par le traitement. Mais, pas dupe, Mélanie le questionnait sans cesse sur son passé. « Mais si, rappelle-toi, tu es né là, je t'ai ramené des photos des lieux de ton enfance. Regarde bien, concentre-toi. » Elle refusait la fatalité et continuait à le harceler. « Puisque je te dis que je ne reconnais rien, tu as beau me montrer toutes les photos d'avant notre rencontre, ça ne me dit rien. Tu es bouché ou quoi ? Combien de fois faudra-t-il que je te le répète pour que tu me foutes la paix, une bonne fois pour toutes ? Accepte-moi comme je suis et aide-moi plutôt à vivre le présent. » Un point, c'est tout, nom de Dieu, bordel de merde. J'en ai marre, tu comprends ? Plein d'eau de ton inquisition permanente et de tes questions sournoises. Tu es perverse. Étienne ne put reprendre son travail au lycée. Son état physique s'améliorait, mais psychiquement, il n'avait plus toutes ses facultés. Sa relation avec sa femme se détériorait peu à peu sans qu'aucun d'eux ne puisse ralentir cette descente aux enfers. Elle se détachait de celui qu'elle avait tant idolâtré. Le fossé entre eux s'élargissait inexorablement. Plus le temps passait, plus elle se rapprochait de son but ultime. Quitter Étienne. « Mais ma pauvre, tu n'auras pas le courage de me quitter. Tu es trop lâche, trop dépendante de moi. » Trop attaché viscéralement à ma personne, même si on ne s'entend plus. En mai, après les vacances de Pâques, Mélanie dialogua sur le net avec Francis, un homme d'une quarantaine d'années, séparé lui aussi.
« Alors André vient de nous lire un extrait qui met en lumière un mouvement alors, peut-être naturel à ce type de traumatisme. Comment accepter cette idée de l'amnésie de l'autre, en fait, qui est quasiment impensable. Alors, c'est très bien mis en scène par rapport à Mélanie. Et en même temps, quand Étienne dit ben, « fais avec moi au présent », ça veut dire qu'il y a tout un pan de la vie qui n'existe plus. Il y a comme une rayure,
un vide.
Y compris de Mélanie, quoi. Donc, c'est un peu aussi difficile, cette question-là, non ?
Ben, oui, justement, c'est ce qui amène le romancier que je suis à tirer cette histoire pour que, justement, je pousse le bouchon jusqu'au bout et que ce couple vit une épreuve. Et cette épreuve, malgré leur amour de jeunesse, et je partais en écrivant un peu cette histoire du postulat suivant, les amours de jeunesse ne meurent jamais tout à fait. Et donc, je vais effectivement tirer la bobine de fil sur ce postulat-là. Mais en attendant, c'est la crise et le couple ne retrouve plus ses repères. Et justement, je vais emmener Étienne un peu plus loin sur les lieux de son enfance une fois que Mélanie sera partie.
D'ailleurs, il y a un personnage dont on n'a pas parlé, donc je n'ai pas parlé dans le résumé, c'est la sœur, puisque c'est elle.
Absolument, Sonia.
Elle a un
oui.
rôle important, puisque c'est elle, en fin de compte, qui va faire le lien.
Absolument, c'est Sonia qui va relever un petit peu son frère. Sonia qui a été un peu mise au banc du couple, parce que Sonia, c'est une grande sœur qui avait un peu la main mise sur son frère, et puis... vieille fille un peu, et même beaucoup. Et donc, elle s'était un peu immiscée dans ce couple et elle avait été mise à l'écart. Et ensuite, elle va avoir cette idée de mener Étienne sur les lieux de son enfance. Et c'est là où il y a un peu d'autofiction, puisque c'est les lieux de mon enfance qui sont décrits dans le roman.
Mais toute cette histoire, d'ailleurs, d'où elle vient, etc.
Le romancier, c'est pas trop. Je sais pas pourquoi j'ai démarré sur un accident. Peut-être ça vient d'un traumatisme antérieur. Certains m'ont dit, ouais, tu démarres comme le film de Claude Sauté, Les choses de la vie. Je crois que ça démarre par un accident de tonneau. Peut-être que j'avais cette image. Et ensuite, je me suis posé les questions. Qu'est-ce qui va se passer ensuite? Qu'est-ce que ça va créer chez tel personnage, chez le couple, le traumatisme de l'accident? Ensuite, qu'est-ce qui peut se passer? Et cette idée de retrouver la mémoire sur les lieux de son enfance, c'est quelque chose de logique, quelque part, puisque ça va permettre de réimprimer ses souvenirs d'enfance. Et petit à petit, en prenant les photos, comme je le décris, le héros va retrouver petit à petit ses rêves, à travers des rêves, les souvenirs d'enfance dans la cité que j'ai bien connue.
Mais c'est toi qui as choisi comme handicap suite à cet accident,
oui,
la perte de mémoire. Oui. Ça pourrait être autre chose.
Absolument, ça pourrait être qu'un handicap physique. Mais j'ai trouvé intéressant de prendre ce parti pris, je puis dire.
On va faire une pause musicale avec la chanson « Le courage des oiseaux » de Dominique A, choisie par Daniel Bercheux.
Tout à fait.
Dieu que cette histoire finit mal. On n'imagine jamais très bien qu'une histoire puisse finir si mal quand elle a commencé si bien. On imagine pourtant très bien voir un jour les raisons d'aimer perdues quelque part dans le temps. Mille tristesses découlent de l'instant. Alors, qui sait ce qui nous passe en tête? Peut-être finissons-nous par nous lasser. Si seulement nous avions le courage des oiseaux qui chantent dans le vent glacé. Tourne ton dos.
Tu avais une raison particulière pour choisir cette chanson?
Dominica était en Valtay et lorsqu'il était étudiant, il avait une vingtaine d'années, et il a fait ce premier disque, Le Courage des Oiseaux, qui est un 33 tours, couverture rouge, tout seul dans sa chambre. Et à l'époque, c'était un peu novateur parce qu'il faisait tous les instruments. Donc, ça a été tout de suite remarqué. Et ensuite, il s'est envolé comme l'oiseau.
D'accord.
Donc, Daniel, oui, à la lecture du livre, on constate que finalement, dans cette histoire, les personnages, pour se reconstruire, vont avoir besoin de se séparer. Ça va être quelque chose d'indispensable. Et la question, c'était, est-ce que ça ne va pas un peu à l'idée de l'encontre des idées reçues, comme quoi l'amour toujours, on est plus fort à deux. La question du mariage, où on dit pour le meilleur et pour le pire. Est-ce qu'il y avait, quelque chose de volontaire un peu dans cette mise en scène du roman, ce passage obligé?
Je crois pas. Non, c'est vraiment. C'est pas un passage obligé. Je pense qu'il y a des couples qui tiennent la route et qui peuvent très très bien. Avoir une durée dans leur amour, avec aussi des tiraillements, des périodes difficiles. Mais ce que j'ai imaginé, c'est que cet accident de la vie est tellement fort qu'il va complètement éclater le couple, mais il reste quelque chose du débris du vase. Ils sont toujours là, ils existent, ils vivent tous les deux. Et ils vont se reconstruire. Ça veut dire que aussi ils vont faire un travail sur eux-mêmes. Mélanie le fait, lui le fait de son côté, Étienne, puisqu'il va le faire le tour du monde. Mélanie se fait aider aussi par un psy pour justement quitter cet homme qui la malmène. Donc chacun s'étant reconstruit, je fais un bond dans le temps pour justement qu'ils se retrouvent ou pas à la fin du livre.
En même temps, Mélanie, elle a plutôt. On pourrait avoir tendance à la penser assez inconséquente parce qu'on a l'impression que ça va un peu vite. Alors, est-ce qu'il y a une volonté? Est-ce que c'est l'effet du roman?
Peut-être, mais ce n'était pas mon intention première de que ça aille trop vite. Je pense que elle a trop attendu. Et qu'elle a pris vite sa décision, mais elle l'a mûri. Bon, c'est vrai que peut-être que au niveau du temps, c'est vrai que dans un roman, on ne maîtrise pas toujours cette notion-là. Toi, ça t'a paru rapide. Moi, quand je l'ai écrit, ça m'a paru interminable, quoi, un peu le calvaire. Mais c'est vrai que je temporalise pas trop. Combien de temps ça a duré cette crise de couple? Voilà. Donc c'est peut-être ça qui donne cette impression différente qu'on peut avoir entre le lecteur et celui qui écrit.
Merci.
André va nous lire un dernier extrait.
Le retour d'Étienne à son domicile marqua le début de multiples changements dans sa vie. Étienne reprenait du poil de la bête. Il tenait debout, au sens propre comme au figuré. Il venait avant de sortir de remiser sa canne dans le porte-parapluie de l'entrée. Il se forçait à se tenir droit et à ne plus boiter quand il se promenait dans la rue. Son corps tout entier commençait à répondre à ses ordres. Il appelait sa sœur le soir après le dîner. Il lui racontait ses rêves où des souvenirs d'enfance commençaient à poindre. Il y a quelques jours, il rêva d'un vélo plié en quatre dans la cour de la ferme où, enfant, il allait chercher le lait chaque matin. Il se remémora le dialogue qui s'ensuivit avec les personnes présentes. La fermière disait « Un accident, oui, un terrible accident, comme je vous le dis, Madame Martin, au carrefour qui traverse la nouvelle déviation. Mort sur le coup, le pauvre, pas de famille. Un sans-abri qui vivait en haut de la côte. On l'appelait le marquis de Beaublair. » Les mots de la fermière résonnaient encore dans sa tête. Cet événement avait-il existé ou était-il purement et simplement sorti de son imagination? Il lui fallait vérifier auprès de sa sœur aînée. Sonia, bonsoir. Écoute, voilà, j'ai fait un rêve étrange la nuit dernière. Un dimanche, j'étais allé chercher du lait à la ferme quand j'ai vu dans la cour un vélo d'homme plié en quatre. Ensuite, la fermière a expliqué à tous les clients présents dans la laiterie qu'il s'agissait d'un accident au carrefour de la déviation et que le cycliste, le marquis de Beaublair, avait été tué sur le coup. Je t'arrête tout de suite. Cela est vrai. C'est exactement ce qui s'est passé. Je m'en souviens comme si c'était hier. Mais tu retrouves la mémoire, frérot. C'est génial, absolument génial. Et le coiffeur qui me rasait toujours la tête à mon grand désespoir, s'appelait-il bien Monsieur Tirel? Oui, effectivement, c'est bien lui. Tu y allais dès que tu avais les bouclettes qui effleuraient tes oreilles décollées. Waouh, c'est vrai! Je retrouve donc des bribes de souvenirs. Une sacrée victoire sur lui-même qui augurait d'autres.
Alors, la lecture d'André, là, nous projette un peu dans ce qui va être effectivement la fin du roman, qu'on pourrait peut-être qualifier de... Alors, d'une happy end, pas tout à fait consommée, mais plutôt quelque chose, oui, qui va vers des choses qui se résorbent. La mémoire, la retrouvaille avec Mélanie, c'est pas complètement confirmé, mais ça laisse quand même de l'espoir. Est-ce que tu avais envie de faire passer quelque chose?
Il y avait plusieurs fins possibles, j'y ai réfléchi longtemps, et il est vrai que j'ai laissé un peu de côté le roman, quelque temps, avant de trouver une issue à cette histoire. Et donc, j'ai pris un parti pris, et c'est vrai que j'ai transporté les personnages à la fin de leur vie, et aussi au mariage de leur fils. Et à travers cet épisode, à travers les regards des personnages, de Mélanie et d'Étienne, et aussi la danse, qui aussi... corporellement, il y a une mémoire, et c'est la première mémoire qu'ils vont eux-mêmes réactiver. Donc, c'est plutôt sensoriel au départ, et puis ensuite, ils vont redécouvrir qu'ils ne s'étaient pas finalement perdus tant que ça, et que la maturité qu'ils ont maintenant leur permet de refaire peut-être un bout de chemin ensemble. On ne va pas dévoiler tout, quand même.
Non, quand même pas. Alors, on va bientôt arriver à la fin de l'émission. Donc, avant de donner quelques infos, est-ce que tu as un projet d'écriture en cours?
Oui, tout à fait. Alors, j'ai eu le deuxième projet d'écriture quand j'ai eu terminé cette histoire. Et il m'a fallu quelques temps avant de dire, mais sur quoi je vais pouvoir repartir? Et là, je suis reparti sur quelque chose de complètement différent que j'ai abordé en début d'émission, à savoir cette volonté d'être acteur qui n'a pas pu aboutir complètement. Et donc, je pars d'un personnage qui s'appelle Antoine, qui est un peu votre... un peu moi-même, et je l'amène à découvrir le dur métier d'acteur, à la fois dans sa formation, et puis à Paris, et puis après, il va faire un petit tour en province. Et puis, on va le retrouver aussi à la fin de sa vie. Comme quoi, il y a des similitudes dans les deux histoires, c'est-à-dire, je ne vais pas décrire le milieu, m'intéresse pas trop, où Antoine va faire de l'animation, et ensuite, bah, il va découvrir la passion de l'écriture et d'autres passions.
D'accord. Eh ben, peut-être qu'on se reverra à ce moment-là.
Notamment le slam.
Ah, intéressant. Alors, les nouvelles. Donc, Pascal Denance, auteur et membre du CIALA, organise un atelier d'écriture créative au Café Flessel le 22 janvier. C'est gratuit pour les membres du CIALA et pour les autres, c'est 5 euros. Vous trouverez l'heure sur le site. J'ai oublié de dire qu'elle est enseignante-chercheure à l'Université d'Angers. Par ailleurs, Béatrice Nourry, qui a été notre première invitée dans Écrit d'ici, publie un nouveau livre, Maria et le Templier, aux éditions du Petit Pavé, avec un sous-titre « Destin croisé en 1210, de la Terre Sainte au Pays Nantais ». Vous le trouverez dans les librairies fin janvier. Alors, nous allons nous quitter avec Miles Davis, « Time After Time ». Je me joins à Florence et André pour vous souhaiter à tous et à toutes une joyeuse, prospère année et bien sûr à l'écoute de Jet FM.